Vous êtes à l'écoute de Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Alexandra. Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé, nous avons tous eu à limiter nos déplacements et nos activités. Pour certains, pas tous bien sûr, ça voulait dire se retrouver avec beaucoup plus de temps libre. Il fallait maintenant trouver de nouvelles façons de s'occuper en tenant compte du fait que les lieux publics, les centres communautaires, les centres de sport et les autres activités habituelles n'étaient plus disponibles. De nombreux endroits, comme les universités et les bibliothèques, ont proposé une panoplie d'activités ou de cours en ligne pour donner l'occasion, ou l'impression pour certains, d'utiliser cette période pour être plus productif selon leurs intérêts. D'autres se sont lancés à fond dans l'activité physique, par exemple en pratiquant des cours de yoga, de Zumba ou tout autre entraînement en ligne. Ou encore, avez-vous pris part à la ruée vers les vélos ou même les patins à roulettes? Certains ont préféré utiliser cette période de temps pour apprendre une nouvelle langue. Plusieurs ont préféré des activités comme les casse-têtes ou les jeux de société. Pour les plus créatifs, il y avait les activités d'art et d'artisanat. L'artisanat a joué un rôle très particulier dans cette pandémie. Au niveau amateur, il a donné l'occasion aux gens de créer quelque chose de concret, ce qui est à la fois positif et productif. Certains artisans amateurs ont fait le saut vers le commercial et ont pu vendre leurs créations pour la première fois, rejoignant ainsi les rangs des artistes professionnels des métiers d'art. Quelle que soit l'expertise et peu importe s'il est pratiqué à des fins récréatives ou commerciales, l'artisanat peut tisser des liens et renforcer l'esprit communautaire, deux notions dont nous avions tous besoin en ces temps incertains. Pour en savoir un peu plus sur l'artisanat et les métiers d'art, nous avons parlé à Megan Black.
Je suis Megan Black et je suis la directrice de la Fédération canadienne des métiers d'art.
Elle anime également le balado Citizens of Craft ou Citoyens des métiers d'art, disponible en anglais seulement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous faites?
En fait, c'est un peu difficile d'expliquer ce que je fais. Être la directrice d'une organisation nationale de services artistiques est un poste un peu inhabituel. J'aide les organisations de métiers d'art à entrer en contact, à apprendre les unes des autres et à promouvoir les métiers d'art dans leur ensemble, ici au Canada et à l'étranger. La Fédération canadienne des métiers d'art existe depuis très longtemps sous différentes formes, depuis 1974. Je travaille pour l'organisation depuis 15 ans à une variété de projets divers avec de merveilleuses personnes de partout au pays.
Ma première question est très ouverte. Qu'est-ce qui fait partie de l'artisanat?
C'est en effet la question. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, probablement tout au long de ma vie professionnelle, et il n'existe vraiment aucune définition facile et concise. Je réponds souvent quelque chose comme « Quelle est la définition de l'art ?» ou « Quelle est la définition de la beauté ?» Ça devient très ésotérique, mais lorsque j'essaie réellement, simplement d'aller au fond des choses et de l'expliquer, l'une des versions de cette définition que j'utilise est que l'artisanat est une forme de fabrication qui associe les traditions matérielles aux compétences, à la conception et à la technologie contemporaine. Ça peut donc couvrir un vaste éventail de différents types d'artisanat et de métiers d'art. En fin de compte, cependant, il s'agit de personnes qui fabriquent des choses pour la beauté ou pour l'utilité, et parfois à ces deux fins.
Selon l'enquête sociale générale « Les Canadiens au travail et à la maison » de 2016, la moitié des Canadiens ont participé à des activités créatives, les activités artisanales représentant la majorité de celles-ci, suivies par la musique et les arts visuels. Est-ce qu'il y a des passe-temps ou des activités que les gens font sans nécessairement penser qu'il s'agit d'artisanat? Par exemple, la pâtisserie ou la boulangerie? Est-ce que ça, c'est de l'artisanat?
Vous savez, à nouveau, ça dépend vraiment. L'artisanat et les métiers d'art représentent vraiment tout un éventail. Alors, lorsque l'on parle de métiers d'art à la Fédération canadienne des métiers d'art, nous désignons réellement les personnes qui travaillent de façon professionnelle à titre d'artisan. Donc, des personnes qui travaillent en orfèvrerie, en conception de meubles, en poterie, en soufflage du verre ou à des activités qui, pour lesquelles il faut réellement un certain niveau de compétence. On ne peut toutefois pas ignorer que dans la société contemporaine, la terminologie de métier d'art ou d'artisanat s'est beaucoup étendue. Il suffit de dire que l'on perfectionne son art et cela pourrait vouloir dire n'importe quoi. Donc, je comprends pourquoi parfois il est un petit peu difficile de saisir ça. Je pense que d'envisager l'artisanat comme étant un éventail de capacités permet aux gens de comprendre que leurs performances ne sont peut-être pas parfaites dans le domaine en question. Pourtant, chacun a un rôle à jouer dans toute forme de réalisation. Donc, je n'aime pas dire que faire son pain est inclus ou non, ou que le soufflage du verre est inclus ou non. On pourrait dire qu'il s'agit un peu de la professionnalisation d'une activité, mais il y a également une place pour la participation des amateurs.
Si c'est la pâtisserie qui vous intéresse, les données suivantes seront peut-être plus à votre goût. En 2020, il y avait 60,4 kg de farine de blé disponible pour chaque personne au Canada. En 2020, le Canada a importé plus de 13,5 millions de kilogrammes de levure active, soit plus de 3 millions de plus qu'en 2019. Lorsque la pandémie a éclaté, les épiceries ont manqué de levure parce que tout à coup, plein de gens ont commencé à faire du pain. Qu'est-ce qui explique cette réaction selon vous? Pourquoi, en pleine pandémie, les gens ont-ils souhaité créer quelque chose de leurs propres mains alors qu'ils achèteraient ça d'habitude en magasin?
Vous savez, c'est juste mon impression personnelle fondée sur le fait que j'évolue dans le monde de l'artisanat et des métiers d'art depuis si longtemps et en ayant vécu la pandémie moi-même, bien sûr. Je pense que c'est un sentiment de contrôle. Je pense que les gens avaient si peu de contrôle sur leur vie quotidienne et sur ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire, sans savoir ce que l'avenir allait apporter. Alors, d'une certaine façon, il était possible de diriger son énergie vers quelque chose qui allait apporter un moment de joie, ou un moment de compréhension, ou un moment de révélation dans un contexte où tout cela manquait. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose de fondamental dans le fait de fabriquer quelque chose, que ce soit en s'essayant un type d'art textile, apprendre le crochet, apprendre seul comment faire du pain, des pâtisseries, ou tout simplement de prendre les premiers pas et explorer ce qui nous entourait constamment. Peut-être que nous n'avions pas le temps ou le désir de nécessairement faire ce pas et de mettre vraiment les mains dans la matière et essayer de créer et fabriquer des choses. Donc, j'espère que les gens ressortent de la pandémie avec une plus profonde appréciation de tout ce qui entre dans la fabrication de toutes ces choses, que ce soit un chef de restaurant qui fait son propre pain ou autre chose, comme un type de version consommable de ce que nous faisons. Qu'il s'agisse d'un bijou, d'un objet de verre coloré ou de la tasse dans laquelle vous buvez votre café. Il y a, comme je l'ai dit plus tôt, tout cet éventail de différents objets qui existent et qui nous entourent jusqu'à l'art public. Même les choses que vous voyez dans votre ville, dans votre collectivité, qui font de votre collectivité ce qu'elle est ou qui sont le reflet que vous avez de votre collectivité. Je pense par conséquent que même si cela commence à petite échelle, à partir de ce que vous pouvez faire avec vos mains jusqu'à la manière dont nous sommes reliés à travers les endroits où nous vivons, où nous travaillons et où nous nous divertissons en fait. Lorsque nous n'avons plus eu accès à tout ça au cours de la pandémie, nous avons trouvé des manières plus personnelles de faire ces liens.
Se tisser des liens et garder contact a été très important pour de nombreuses personnes alors que nous faisons face à la pandémie. Près de 38 % des Canadiens ont indiqué avoir éprouvé des sentiments de solitude ou d'isolement en raison de la pandémie de la COVID-19. Avez-vous remarqué des tendances en rapport avec l'artisanat pendant la pandémie?
Je pense que l'une des plus grandes tendances d'artisanat pendant la pandémie était définitivement de faire des masques. Vous savez, tout le monde essayait de trouver un masque pour de nombreuses raisons. Des raisons de santé très importantes, mais également simplement parce que c'était quelque chose que nous pouvions faire pour s'entraider. Et donc, une foule de personnes fabriquaient des masques et les vendaient en ligne. Beaucoup d'artistes textiles ont redirigé leurs activités pour fabriquer des masques très créatifs. Je connais des artistes à Cap-Breton qui faisaient une sorte de masque à teinture naturelle de style Shibori. Des artistes dans l'ensemble du pays ont adopté des perspectives différentes en la matière. Il y a d'ailleurs eu une exposition vraiment excellente formée à partir d'un groupe Facebook dans le cadre d'un projet communautaire, le projet Breathe. Respire. Si vous faites une recherche en ligne sur ce projet, vous trouverez des masques absolument fabuleux faits par des artistes dans l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas d'œuvres qui visaient l'aspect sanitaire. Il s'agissait réellement d'œuvres artistiques sculpturales. Certains étaient en écorce de bouleau, d'autres ornés de perles et d'autres en fourrure. Un grand nombre d'artistes autochtones ont participé à la création d'œuvres de cette exposition. Il s'agissait principalement d'artistes autochtones de l'ensemble du Canada, mais également du reste de l'Amérique du Nord. C'est une belle communauté d'artistes se rassemblant et utilisant le masque comme symbole pour créer quelque chose à un moment très difficile pour tout le monde. C'était un projet vraiment beau qui s'est perpétué pour donner une exposition dans la vraie vie, si on peut dire, et non un projet issu du domaine virtuel. L'exposition est en tournée dans le pays maintenant. C'est une excellente exposition que je recommande vraiment vivement. Je me souviens, dans les mois précédents Noël, je me disais que les masques faits à la main allaient être le cadeau incontournable de l'année. J'avais raison.
Quand on y pense, il y a plusieurs personnes qui sont des couturiers ou des couturières en arbre, comme par exemple les parents qui fabriquent les costumes d'Halloween de leurs enfants. Plusieurs personnes ont fabriqué leurs propres masques au début de la pandémie et ont même créé des masques personnalisés pour leurs proches. C'était une façon de pouvoir prendre soin de nos proches de loin.
C'est tout à fait ça, et c'est vraiment un bel aspect de l'artisanat. C'est comme une nécessité. Vous pouvez faire quelque chose pour vous quand vous en avez besoin, mais c'est également une manière de montrer votre appréciation, que vous pouvez faire quelque chose pour aider quelqu'un grâce à une simple compétence.
En général, avez-vous remarqué s'il y avait effectivement un plus grand nombre de gens qui ont cherché quelque chose de créatif à faire depuis le début de la pandémie?
Depuis la pandémie, je crois, oui, simplement dans ma vie personnelle et dans mes connaissances, mes amis, ma famille et les gens de ma communauté, nous avons définitivement vu davantage de gens s'essayant simplement à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si cela découle de ne simplement pas pouvoir faire des autres choses qui rempliraient notre temps, comme de voyager ou d'aller au restaurant ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense que les gens cherchaient à apporter un petit peu de joie dans leur journée ou même simplement pour s'occuper, n'est-ce pas? Quelque chose à faire lorsqu'il y a tant de limites à ce que vous seriez généralement occupé à faire. Je pense que ce n'est pas étonnant que les gens se soient tournés vers l'artisanat comme exutoire.
Les loisirs, c'est important. Les femmes âgées de 25 à 54 ans ont consacré en moyenne 3,6 heures par jour à des activités de loisirs en 2015 par rapport à 4,1 heures par jour pour les hommes. Est-ce que vous avez une idée des types d'artisanat qui ont été les plus populaires au cours de la pandémie et pourquoi?
À nouveau, du point de vue statistique, nous n'avons pas nécessairement encore d'informations à ce sujet. Cela viendra peut-être avec le temps, mais je pense que si j'étais dans cet état d'esprit, si je devais prendre le temps d'observer dans cette optique la pandémie ou l'après-pandémie, je pense que certains des artisanats les plus simples à aborder sont ceux basés sur le textile, juste parce qu'ils ne sont, d'une certaine manière, pas aussi salissants que certains autres. Il y a bien sûr des outils et des espaces de studio dont vous avez besoin pour faire ces choses, mais il est possible de commencer à un niveau très basique pour faire quelque chose avec simplement une aiguille, un fil, des ciseaux et du tissu comme premier pas. Cela peut devenir bien plus complexe en évoluant jusqu'à pouvoir filer de la laine, garder de la laine depuis l'arrière d'une patte de mouton. Cela va vraiment jusqu'au fil individuel, n'est-ce pas? Alors, je pense que pour une réponse courte, ce serait les textiles. Je vous ai donné une réponse longue, mais une réponse courte serait vraiment que les textiles sont probablement l'artisanat le plus accessible, que les gens peuvent aborder en premier lieu, mais il existe tout un monde de métiers d'art. Ce tout petit pas vous emmène dans un vaste monde vous incitant à essayer de nouvelles choses. Avec les studios, lorsque vous découvrez la céramique, cela devient un petit peu plus difficile. Vous devez avoir un four et disposer d'autres espaces particuliers où créer ces objets. Il en va de même pour le métal ou la forge. Vous devez avoir du feu, des enclumes, de la ventilation et prendre des précautions. Il existe un immense éventail d'activités, réellement immense.
Ce sont les textiles qui vous intéressent? En 2019, selon les estimations, 1,1 million de kilogrammes de laine brute a été acheté au Canada directement auprès des producteurs canadiens. OK, revenons à nos moutons. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de nouvelles activités artisanales à distance?
Je pense que les gens ont toujours fait ça. Depuis d'innombrables générations, des personnes se sont essayées à de nouvelles choses ou ont essayé d'apprendre de nouvelles compétences ou de se tremper le bout des pieds dans un aspect différent de l'artisanat, quel que soit le moyen d'expression ou quelle que soit la discipline. Je pense cependant avoir constaté une augmentation de ce que j'ai appelé des kits ou des ateliers. Vous savez, tout ce phénomène de soirée peinture, comme je l'appelle. Je pense que cela a définitivement augmenté parce que les gens ont d'une certaine manière un plus grand accès à des directives grâce à Internet et que les gens peuvent apprendre par eux-mêmes. J'ai vu des artistes faire des choses vraiment intéressantes, comme une artiste en Nouvelle-Écosse.
Megan a enchaîné par la suite en nous expliquant comment certains artisans ont fait preuve de créativité en vendant des trousses et des tutoriels en ligne pour enseigner une nouvelle forme d'artisanat. Parfois, ils offraient même des cours virtuels en direct.
Je m'appelle Andrea Tseng Jackson et je suis une artiste textile et fabricante de courte-pointe basée à Chibuktuk, Halifax, en Nouvelle-Écosse. Alyssa Cloette de Keep House Studio est une conceptrice textile qui vit à Seaforth, en Nouvelle-Écosse. Ensemble, nous sommes collaboratrices de longue date. Au cours d'un programme d'artistes en résidence auquel nous avons participé ensemble à l'été 2019, nous avons eu l'idée de collaborer sur des trousses de courte-pointe. Elle s'occuperait de la conception d'une meilleure crème pour le tissu imprimé et moi du motif de la courte pointe. Les fabricants de courte pointe aiment souvent acheter du tissu en paquet appelé « pack quarter bundles », ce qui signifie « différents quarts de mètre de tissu coordonnés ». Nous avons lancé notre premier paquet juste avant le début de la pandémie. Le fait de créer quelque chose à la main nous permet de garder un lien avec le monde physique, surtout dans un monde qui a été si rapidement numérisé et rendu virtuel pendant cette pandémie. Il y a tellement de réconfort et de familiarité associé à la courte-pointe. Quand on vit des temps incertains, nous recherchons des choses auxquelles nous pouvons nous accrocher littéralement, et les courtes-pointes sont tactiles. L'acte même de créer, loin de toutes les réunions Zoom et des appels sur FaceTime, crée un lien qui nous fait apprécier le moment présent. En même temps, les courtes-pointes, c'est un peu comme recevoir un câlin physique, mais à distance, lorsque nous en fabriquons pour d'autres personnes.
C'est alors un pas plus loin que de simplement acheter un livre ou de simplement obtenir un manuel de marche à suivre pour essayer de faire quelque chose soi-même. Vous disposez alors d'un expert qui peut vous guider tout au long du travail et vous donner des conseils. C'est là que la magie s'opère réellement. Je trouve que lorsque l'on apprend une nouvelle compétence, parler à quelqu'un qui en sait un peu plus et qui s'y est exercé longtemps et peut vraiment vous guider tout au long du processus est vraiment, je pense, une expérience inspirante. Quelque chose qui multiplie votre niveau de compétence. En disposant de quelqu'un qui vous guide, le processus est plus facile.
Donc, pour les auditeurs adeptes d'artisanat qui souhaiteraient passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui pratiquent déjà une activité d'artisanat à un niveau amateur, mais qui souhaitent devenir professionnels, avez-vous des conseils pour eux? Des ressources qui pourraient leur être utiles?
Absolument. J'ai tellement de conseils pour les personnes souhaitant atteindre le niveau suivant dans un métier d'art. La première chose que je dirais est de communiquer avec leur conseil des métiers d'art local, provincial ou territorial, que ce soit Craft Ontario dans le centre-ville de Toronto ou l'Alberta Craft Council Edmonton, qui a également un espace à Calgary. Cela n'a pas d'importance que vous soyez dans une grande ville ou dans une région rurale. Tournez-vous vers votre conseil des métiers d'art provincial ou territorial et consultez leur programme. Ils peuvent vous mettre en contact avec d'autres guildes ou d'autres artistes de votre propre collectivité. Tournez-vous vers votre galerie d'art locale également. Un grand nombre d'entre elles proposent des cours ou des événements ponctuels où des artistes professionnels viennent enseigner. Il y a tant de possibilités et je peux pratiquement vous garantir que dans toute collectivité, qu'il s'agisse d'une grande ville ou d'un minuscule hameau au Canada, il y a une boutique d'artisanat quelque part. Alors faites vos recherches. Parlez aux gens qui y travaillent, achetez des œuvres de vos artistes locaux et demandez-leur s'ils proposent des ateliers ou des cours. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, les conseils des métiers d'art sont vraiment la marche à suivre.
En 2016, on comptait 14 160 artisans employés au Canada. Selon vous, qu'est-ce qui distingue vraiment les artistes canadiens?
Je pense que ce qui distingue particulièrement les métiers d'art canadiens est qu'ils englobent tant d'origines et d'expériences diversifiées, y compris des expériences contemporaines. Ils peuvent aussi intégrer des traditions, mais sont également liés à ce que nous fabriquons actuellement ou les tendances des styles ou des expériences que nous avons de nos jours ou même les concepts que nous souhaitons explorer désormais. Nous pouvons observer l'histoire d'un lieu à travers l'artisanat et la culture comme contexte, et je ressens honnêtement que le Canada est un endroit tellement diversifié. Nous avons tellement de gens différents, issus d'horizons différents, qu'il s'agisse d'artistes autochtones ayant des histoires remontant à des milliers d'années, ou des immigrants ici seulement depuis quelques générations, ou de tous nouveaux arrivants au Canada. L'artisanat et les métiers d'art ont accompagné toutes ces diverses expériences. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre et à partager, et que c'est une manière pour nous de nous comprendre les uns les autres sans barrière linguistique. Je pense que l'artisanat et l'art nous permettent de partager, de croître et d'apprendre sur les autres et peut-être de mieux nous comprendre malgré toutes ces origines si diversifiées. Le Canada a également une histoire complexe et je ne pense pas que quiconque puisse échapper à cette conversation. Je pense franchement d'ailleurs qu'il est irresponsable de ne pas penser à cette conversation. Il y a en effet également cette très profonde histoire d'artisanat autochtone au Canada qui est si belle selon moi et qui a beaucoup à dire et est si pertinente dans la société. Vous savez, du point de vue artistique, du point de vue de la compréhension culturelle et de la façon dont nous pouvons commencer à nous comprendre mutuellement. Lorsque vous commencez à parler d'enjeux importants et difficiles à travers les arts, cela aide à ouvrir des portes, à ouvrir des esprits et à ouvrir des perspectives. Je ne pense pas que cela résoudra tous les problèmes, mais je pense vraiment que c'est une façon pour les gens de communiquer. Cela présente une immense valeur. J'encourage donc également les gens à communiquer avec le collectif des commissaires autochtones, de découvrir les collections et les musées de Premières Nations, les galeries ayant des magasins et des boutiques, ainsi que les artistes travaillant dans l'ensemble du Canada issus de diverses nations et de différentes collectivités. Il y a tellement de belles choses dans notre pays grâce auxquelles nous pouvons communiquer et j'espère que les gens prennent le temps de les explorer. Car le Canada est tellement diversifié, tout comme notre artisanat.
En 2017,
environ un quart des Autochtones âgés de 15 ans et plus, vivant hors réserve, ont réalisé des sculptures, des dessins, des bijoux ou d'autres types d'œuvres d'art au cours des 12 derniers mois. Est-ce qu'il reste quelque chose que je n'ai pas mentionné et dont vous aimeriez parler?
Je pense que j'encouragerais les personnes dans l'ensemble du Canada à considérer l'artisanat comme une manière de retisser les liens avec la communauté, pas seulement dans leur propre maison ou leur propre expérience personnelle. Ce sont deux aspects vraiment très sains et bénéfiques. Mais lorsque vous émergez du cocon post-pandémique que nous nous sommes créés, tournez-vous vers votre collectivité pour découvrir les pratiques d'artisanat du moment ou les événements de métiers d'art qui se déroulent. C'est une manière pour nous de ressortir dans la collectivité afin de se soutenir pour le plaisir, pour se sentir productif, pour se sentir relié. Il y a tellement d'occasions de regarder des œuvres artisanales, d'acheter de l'artisanat, si vous souhaitez en faire collection, ou de saisir l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau pour vous-même en essayant une nouvelle pratique d'artisanat. Des établissements d'enseignement proposent des programmes. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a les conseils des métiers d'art dans l'ensemble du pays, des galeries, des musées, des boutiques locales, des centres d'amitié. Il y a tant d'endroits où vous pouvez entrer en contact avec les métiers d'art. Si vous cherchez à faire quelque chose d'épanouissant, je pense que ce sont d'excellents endroits à explorer.
Il y a plusieurs façons de s'impliquer dans le monde de l'artisanat. En décembre 2020, on comptait 67 930 entreprises dans le secteur des arts, du divertissement et des loisirs. Alors, comment est-ce qu'on peut en savoir plus à votre sujet et sur votre travail? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux?
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur la Fédération canadienne des métiers d'art elle-même et les métiers d'art en général à deux endroits. Le site web canadiancraftsfederation.ca qui présente notre organisation et toutes les nombreuses organisations avec lesquelles nous travaillons. Il y a également citoyens des métiers d'art à citizensofcraft.ca. Vous y trouverez plus de 700 profils d'artistes et d'organisations de métiers d'art dans l'ensemble du pays. Nous explorons dans cet espace la signification des métiers d'art. C'est réellement un centre d'information sur les métiers d'art et nous y proposons également un balado. Bien sûr, je veux partager ça avec tout le monde, alors consultez notre site web en effet. Je suis disponible à Citoyens des métiers d'art et à la Fédération canadienne des métiers d'art et à pratiquement tous les événements de métiers d'art auxquels je peux assister. C'est là que vous trouverez Megan Black.
Et si vous cherchez l'exposition d'art sur les masques que Megan a mentionné?
Pour cette exposition, il suffit de faire une recherche avec le mot « breathe » dans Facebook, avec un point à la fin. Donc, « breathe » avec un point à la fin. Cela vous dirigera vers un groupe public qui compte environ 2000 membres et qui présente des centaines de masques que des personnes ont fabriqués.
Allez voir, c'est vraiment chouette. Vous étiez à l'écoute de « Écoutez bien ». Merci à Megan Black de la Fédération canadienne des métiers d'art et à Andrea Tseng-Jackson de Third Story Workshop pour nous avoir parlé de son artisanat. Vous pouvez vous abonner à cette émission là où vous obtenez vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone de notre balado appelée Essayers. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!